France Culture.
Bien, alors maintenant, après les éminences grises, on va passer maintenant au, eh bien, au directeur du renseignement, monsieur Alexandre de Maranche.
Le moment est venu, peut-être, après ces années tout de même, où vous n'avez pas dit un mot, de dire un certain nombre de choses, et peut-être, en fin de livre, de laisser un message, si vous voulez, sur des choses qui vous paraissent importantes pour notre survie dans le camp de la liberté. Et donc, ce que j'ai essayé de raconter a été des choses qui ont été un peu le roman de ma vie, sauf que c'est un roman vrai, oui. Si vous voulez. Et j'en ai plutôt enlevé qu'ajouté pour pratiquer le fameux understatement qui me convient, si vous voulez. Bien. Et à la fin, j'essaye de dire des choses qui sont importantes et j'espère, je ne détiens aucune clé, j'ai pas les grandes solutions, etc. Je veux simplement dire, il faut réfléchir à ça, c'est tout.
Alexandre de Maranche, contes et légendes. Michel Pomared, Benjamin Hu. Deuxième épisode, un personnage romanesque. Christine Ockrent, comment vous est venue l'idée d'écrire un livre avec Alexandre de Maranche en 1986 sur l'espionnage et plutôt sur sa vie à lui ?
Maranche était un personnage absolument fabuleux parce qu'il avait cette forme de charme surannée et le personnage de cette époque était déjà, comment dire, une figure à l'ancienne. Exaltant jusqu'à l'excès des valeurs qui n'étaient plus celles des années 80, mais qu'il avait coquetterie à mettre en avant. Évidemment, une grande habileté à masquer ou à cacher ou à taire toutes sortes d'événements, toutes sortes de péripéties auxquelles lui-même avait été mêlé, et une propension certaine à embellir son propre rôle et ce talent de conteur qui vous emmenait indéfiniment dans toutes sortes de récits dont il était à peu près impossible de vérifier la validité ou la précision. Et donc, j'étais sous le charme, j'ai dit d'accord. L'idée n'était pas du tout de faire une enquête. J'en aurais été totalement incapable, j'en serais toujours incapable aujourd'hui, à la différence de ce que quelques excellents confrères ont pu faire plus tard, en rencontrant d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, quelques difficultés.
Jean-Christophe Notin, dans Le Secret des Princes, 1986, est-ce que ce n'est pas l'acmé de ce personnage romanesque qui romance sa vie avec Christine Ockrent ?
Complètement. C'est l'homme qui est sorti des services depuis 5 ans, qui regrette sans doute un peu cette belle époque et qui a envie de montrer à tout le monde le grand patron des services qu'il a été. Donc on retrouve vraiment tous ceux qui l'avaient connu, on retrouve toutes les anecdotes qu'il distillait dans ses fameux repas princiers à Mortier. Donc c'est beaucoup d'embellissement, d'enjolivement par rapport à la réalité. Il a été ravi de travailler avec Christine Ockrent, qui était une immense star. À l'époque, il est toujours, mais à l'époque encore plus. Et le livre a été un carton phénoménal. Je crois que c'est 600 000 exemplaires. Ce qui montre bien l'intérêt de la société française, de la société de manière générale, vis-à-vis des questions des services de renseignement. Et ça, Maranche l'avait très bien compris.
L'heure de gloire, c'est apostrophe septembre 86.
Une émission que je conseille à tout le monde, qui est sur le site de l'INA, je crois. C'est absolument magnifique parce qu'on voit, une fois de plus, l'empreinte des services sur la société. On voit Pivot qui a son œil rieur, et surtout sur le plateau, donc il y avait Pierre Assouline, Modiano et un autre auteur dont le nom m'échappe, mais c'était le thème c'était l'espionnage. Et on voit que chacun, à chaque fois, pour chacun qui devait présenter le livre, il n'arrivait pas à lâcher de l'œil Maranche, parce qu'il disait, en fait, il cherchait sa bénédiction. Est-ce qu'il va approuver ce que je dis ? On voyait que Maranche en jubilé. Vraiment, c'était le Maranche, le grand seigneur, qui racontait une fois de plus ses anecdotes, qui était très fier de lui. Et on voyait son œil qui frisait, tellement heureux qu'enfin il soit à la place qu'il croyait mériter.
Oui, ce livre a connu en France un succès vraiment, pour moi, inattendu et gigantesque. Il a été traduit dans toutes sortes de langues. Et pour moi, qui ai eu l'audace et le bonheur de d'écrire un certain nombre de livres depuis, je suis toujours surprise. Vous savez, lors des signatures, dans des festivals ou des fois au livre, les gens viennent encore avec un exemplaire de ce livre-là, près de 40 ans plus tard, en me demandant de le leur dédicacer. Donc oui, ce livre a eu énormément de succès. J'en ai un souvenir diffus, mais oui, nous y sommes allés tous les deux. C'est évidemment Marange qui a fait son numéro formidable. Son surnom préféré, c'était Porthos, tel le mousquetaire, et il a joué sa partie avec ce talent et cette roublardise qu'on lui connaissait.
Je crois que dans le personnel politique, mais c'est vrai un peu quand on monte, les gens ne sont pas tout à fait nets en général, n'est-ce pas? Parce qu'il a fallu tellement de crocs en jambes, de peaux de banane sous les pieds des copains au cours du parcours, n'est-ce pas, qu'on arrive, on est quand même taché. Alors, il ne faut pas croire du tout que ça soit une majorité de gens. Il y a dans la politique des tas de gens dévoués, oui, et qui ne ressemblent pas à des dalmatiens couverts de taches, n'est-ce pas? C'est tout ce que je veux dire.
Est-ce que vous seriez d'accord avec...
Il y en a pas mal.
Est-ce que vous seriez d'accord avec cette phrase tirée du livre, du roman de Bernard Sicher? L'un des personnages dit ceci: si on fait de la politique par idéal, on se fait toujours avoir. Si on en fait sans idéal, on est une canaille. Vous êtes d'accord?
Tout à fait, naturellement. Vous savez, j'ai un homme qui a été tout de même un personnage, et qui est un personnage politique de premier plan en France, n'est-ce pas? Et qui est un soldat, il me plaît. C'est M. Pierre Messmer qui a été notre premier ministre.
Auquel vous vous rendez?
Et un jour, il m'a dit une chose épatante. Il m'a dit, dans le fond, il faut choisir entre le pouvoir et l'argent. Et on ne peut pas avoir les deux. Venant de lui, qui était un parfait honnête homme, n'est-ce pas, au sens moderne et au sens 18e siècle du mot aussi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et il y a un certain nombre de gens qui ont voulu avoir les deux. Quelquefois le premier pour avoir le second, ou vice-versa, ça dépend.
Et un autre personnage que vous aimez beaucoup, c'est Georges Pompidou.
Naturellement.
C'est lui qui vous a confié la direction des services secrets, et vous l'aimez beaucoup.
Ouais.
Ce livre, je pense qu'il l'a écrit... Je pense qu'il l'a écrit parce qu'une fois qu'il a quitté, il a quitté sur un coup de tête en disant « Je refuse de recevoir les trois ministres communistes ». Il faut savoir, hein. Mitterrand voulait le garder.
Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la DGSE.
C'est là où on voit quand même. Mitterrand, qui était un homme très intelligent et très malin, savait parfaitement juger les hommes. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'en connais au moins deux sur lesquels il a proposé de venir travailler avec lui, qui étaient pourtant des gaullistes marqués. Hein. Bon. Parce qu'il savait qu'ils étaient efficaces dans leur domaine et qu'il n'avait pas en trouvé d'aussi efficaces. Donc c'est là où. Donc il avait dit à Marange, il avait dit. Quand il a été élu, il a appelé Marange, il lui a dit voilà, vous allez rester avec moi. Et Marange lui a répondu: Monsieur le Président, ça je vous garantis que c'est la réponse, Monsieur le Président. Moi, rester avec vous, ça ne me pose aucun problème, mais vous comprenez bien que je ne peux pas accepter que des ministres communistes viennent visiter les services secrets français. Et alors, Mitterrand lui a dit, mais vous savez bien que je ne pourrais pas l'empêcher, vu les postes qui avaient été donnés aux trois ministres, dont un ministre d'État. À ce moment-là, Marange lui dit, dans ces conditions, je démissionne. Et ça a été une catastrophe, parce que Mitterrand était, à ce moment-là, était bien ennuyé, et c'est là où il a pris Marion, qui était... un homme de caractère, et même un caractère de cochon d'ailleurs, mais qui a eu des gros problèmes aussi. D'ailleurs, ça n'a pas duré très longtemps, hein, parce qu'il s'est brouillé avec tout le monde. Et là, Marange, il a souffert de ça. Il est parti parce que c'est une question de principe pour lui, mais il en a souffert parce que quand il a vu ce qui se passait derrière, il regrettait en définitive en disant « mais c'est dommage ». Et je crois que c'est là où il a voulu expliquer que les services, surtout après les problèmes qu'il a pu avoir, il a voulu expliquer que les services, c'était pas l'image qu'on pouvait en avoir à l'extérieur, que c'était autre chose.
Vous êtes chargé de renseigner le pouvoir politique, le décideur politique. Vous n'êtes pas chargé ensuite d'exécuter, sans jeu de mots naturellement, les décisions de la politique. Quand il a pris le tournant politique, et s'il a pris une décision dans laquelle les services secrets peuvent intervenir, à ce moment-là, vous rentrez en scène à nouveau. Bon, mais il faut une discipline extraordinaire, et je le dis pour l'avenir aussi, parce qu'il faut savoir quel est le cadre de votre mission. Vous comprenez que si un jour, un directeur général fou et qui avait des moyens, j'avais des moyens, c'est pas une grande liberté, je crois que tout le monde le sait, ça, dit « mais tel monsieur ne me plaît pas, on va lui coller un mauvais café », vous comprenez qu'on devient très vite, Monsieur Beria. ou Monsieur Himmler.
Il faut résister à cette tentation.
C'est pas nous, ça. Moi, je suis là pour défendre la démocratie, même si je la trouve molle, parce que tous les autres systèmes sont pires, comme disait le cher Winston.
Il y a une révélation quand même extraordinaire dans votre livre sur Greenpeace, c'est que vous dites que vous, pendant quelques années, vous avez quand même saboté pas mal les bateaux. Vous les avez pas fait exploser, bien entendu, mais comme par hasard, tous ces bateaux des écologistes et des pacifistes, oui. Ils avaient les avaries et ils pouvaient pas partir.
Et les équipages aussi.
Et les équipages aussi.
Ça, c'est une série de hasards, bien heureux pour les uns, malheureux pour les autres.
Alors, je veux simplement vous poser cette question. Est-ce que les présidents de la République de l'époque savaient que vous alliez commettre des avaries sur les bateaux de là-bas dans le Pacifique?
Écoutez, il vaut mieux qu'ils ne le sachent pas. N'est-ce pas? Parce que votre mission, on vous dit, protéger les expériences françaises du Pacifique, si vous pouvez, comme vous le pouvez. Puis ça s'arrête là. Mais il ne serait pas convenable, puisque ce mot a un certain succès, de mouiller le président de la République dans un certain nombre d'opérations, parce que autant il peut lui être agréable ensuite de dire, vous avez vu, j'ai réussi telle opération, je suis un as, etc., autant ça serait parfaitement désagréable qu'il soit mouillé dans une opération qui, comme dirait l'autre, devient foireuse.
Oui. Et elle a foiré, celle-là. Ah. Elle a foiré. Ah.
C'était un personnage de roman, si vous voulez. Mais il se donnait aussi cette image-là. C'était le comte de Maranche, si vous voulez. Puis, d'ailleurs, au service, on l'appelait Porthos. Hein. C'était son surnom, c'était Porthos. Parce que il jouait les mousquetaires, si vous voulez, avec le panache et tout. Donc il y avait toute une partie... c'est sûr, il se crée son image en même temps. Hein.
Les mousquetaires eux-mêmes embellissaient leur vie. Vous pensez que D'Artagnan, Athos et Aramis étaient vraiment les personnages dont le génie d'Alexandre Dumas a transformé les prouesses? Non, enfin, tout cela faisait partie, encore une fois, d'une sorte de... comment dire... de style que Maranche lui-même adorait entretenir. Avec évidemment beaucoup de dissimulation et pas mal de mensonges, oui, sûrement. Mais vous savez, ses successeurs dans le même emploi, vous n'allez pas me faire croire, un, qu'il s'exprime en toute transparence quand il s'exprime, ce qui est très rarement le cas, et d'autre part, que leur rôle consisterait, même dans une démocratie comme la nôtre, à rendre des comptes. C'est pas ce qu'on leur demande. On peut en être choqué, on peut en être indigné, on peut être naïf, mais c'est pas ce qu'on leur demande.
Soumis à la surinformation et à la surdésinformation, nous raisonnons trop souvent en termes d'émotions prédigérées.
Dans Le Secret des Princes, sous la plume d'Alexandre de Maranche.
Apprenez à oublier. Apprendre est facile. Comme disait Jules Renard, ayez des idées arrêtées, mais pas toujours au même endroit.
Ceci étant, non, ce qu'il raconte, c'est ce qui s'est passé hein, avec Christine O'Krent. Je crois qu'en définitive, ce qu'il voulait surtout, c'était montrer que lui, quand il était au service, c'était un personnage qui était un personnage d'envergure mondiale, quoi. Et il avait besoin de ça. Après, quand il a quitté... Alors, justement, au même temps qu'il voyait O'Krent, il a continué à avoir des contacts. Alors, il était très ami avec les Américains, avec Cheney, avec tous les autres, avec Bedell Smith, Cheney, enfin, toute l'équipe des anciens. Il voyait toujours les Égyptiens, les Libyens, il voyait tout le monde. Il voyait plein de monde du Moyen-Orient qui venait lui demander son avis.
Le SDEC, soi-disant, une de ses missions, c'est de créer des identités fictives. Et on a l'impression qu'Alexandre de Maranche, lui, il se crée une légende faite de toutes pièces pour arriver à ce poste honorifique. Et le Graal de ça, c'est sa Légion d'honneur de 1946.
Lieutenant de réserve de cavalerie, magnifique officier animé du plus pur patriotisme qui, dès l'armistice, s'est dressé courageusement contre l'envahisseur, ayant organisé chez lui un dépôt d'armes et un centre de passage clandestin, il a sauvé ainsi de nombreux officiers et résistants. En dépit d'incessantes perquisitions de la Gestapo et de la menace continuelle d'arrestation, il s'est dévoué de façon totale à la cause de la libération de la France, participant lui-même à des liaisons de renseignements au profit des Alliés, montrant en toutes circonstances une audace et un sang-froid exceptionnels.
Est-ce que tout ça s'est fabriqué ?
Évadé de France en décembre 1940.
Disons que c'est grandement enjolivé. C'est toujours pareil avec Maranche, il y a une base de vrai. Donc il a sans doute eu de petites actions résistantes, il a été un combattant de la Seconde Guerre, mais c'est pas au niveau de ce que laisse entendre ce panégyrique. Celui qui a écrit ça a voulu certainement lui faire plaisir, et en tout cas dorer son armure. On est quand même loin de ça, c'est ce que m'avait montré les recherches à l'époque. Maranche a un peu embobiné toute la société française politique de l'après-guerre. Une fois de plus, on se faisait passer pour un grand résistant, ce qui n'a pas été. Il était à l'époque propriétaire terrien, il gérait une ferme, mais bon, dans l'aristocratie. Donc, il passait plus de temps à Paris à s'amuser qu'à s'occuper de ce genre d'affaires. Ensuite, il s'est évadé par les Pyrénées en 1942, ce qui est donc à mettre à son mérite. Ensuite, il s'engage dans l'armée française. Et ce que laisse entendre la Légion d'honneur, c'est qu'il a fait toute la campagne d'Italie, qui a été une campagne horrible, vraiment des conditions très dures. On a parlé de Verdun-des-Neiges, ce qui a été le cas. Mais lui, en tout et pour tout, il a combattu une semaine. Alors, c'est pas, il ne faut pas s'en moquer, surtout qu'il a été blessé à cette occasion-là, mais ça reste une semaine. Ce n'est pas le grand combattant qu'on peut imaginer.
Je trouve que c'est un péché véniel. Que s'il fallait enlever la Légion d'honneur à tous les gens qui se sont vantés pour l'obtenir, je pense qu'il resterait du monde, sans doute, mais pas tant que ça.
Le journaliste Jean Guinel.
Enfin, c'est très intéressant de savoir, hein, parce que on aurait préféré que Maranche fût parfait de ce point de vue, mais bon, personne n'est parfait, et lui non plus. Disons que, voilà, ça m'a pas vraiment étonné.
Oui, enfin, le degré d'affabulation, si vous voulez, le principe ne m'en a pas surprise, l'ampleur, l'ampleur, oui. Pour toutes ces approximations et ces affabulations, c'était un homme qui avait ce privilège rare d'avoir une vue plutôt globale sur un certain nombre de phénomènes et d'avoir des interlocuteurs américains d'abord. C'est tout à fait révélateur de relire ce qu'il dit, en particulier de la politique américaine sous Jimmy Carter, dont on vient de célébrer le logis puisqu'il est mort à 100 ans, mais la manière dont Maranche décrit cette forme de ce qu'il appelle la naïveté à l'américaine s'agissant de l'Iran, s'agissant plus précisément du terrorisme, oui, le djihadisme, la dérive fanatique de cette forme-là de l'islam salafiste, oui, ses propos sont tout à fait... reste tout à fait intéressant.
Deux ans plus tard, Alexandre de Maranche, après dans Le Secret des Princes, publie un atlas géopolitique. Et là, la critique est très, très sévère. Et les cartes sont inexactes, tout est bourré d'erreurs. Donc, on ne peut pas se piquer d'écriture et de géopolitique en même temps.
Et non, là, c'est le drame Maranche. C'est un peu dans la lignée de Sun Tzu. Maranche n'a pas, bon, c'est pas une critique du tout, mais n'a pas fait d'études. Il s'est formé sur le tas. Il a cette vision très binaire du monde. Il y a les communistes et les autres. Et toute la géopolitique, pour lui, ça se résume à ça. Avec ces grandes phrases comme quoi la géographie commande toute la politique dans le monde. Bon, évidemment, ça, pour des spécialistes de la question, ça a fait beaucoup rire. Donc, il a osé ce livre, hélas. Pourtant que j'avais été très heureux de lire quand j'étais tout jeune, que je considérais comme un très grand livre à l'époque. Mais bon, évidemment, ça a été une catastrophe, mais un très, très grand succès de librairie encore.
Quand il meurt en 1995, il y a une cérémonie d'honneur à l'école militaire.
Oui.
Vous y étiez ?
Oui.
Il y avait des officiers du 11e choc qui étaient autour de lui. Donc le 11e choc qui avait été dissous juste avant, mais
ouais,
qui était donc
un
régiment d'élite parachutiste.
Oh, c'était plus qu'un régiment d'élite, c'était le régiment de l'USDEC et de la DGSE. C'était un régiment qui était orienté vers le service, si vous voulez. Sachant qu'à côté, il y a deux activités militaires dans le service, c'est vraiment... Il y avait le 11e choc. Il y avait chez les marins, il y avait les bateaux qui étaient destinés au service. Dans l'aviation, il y a une escadrille destinée au service. Et puis, il y avait le service action qui, lui, fait les opérations spéciales.
Vous étiez à cette cérémonie, mais il n'y avait aucune tête couronnée, aucun prince qu'il avait côtoyé à l'époque. Pourquoi ?
Vous savez, le temps avait passé d'abord. Hein, le temps avait passé, tout le monde avait vieilli. Une bonne partie des gens qu'il connaissait étaient partis. Hein. Le Shah d'Iran, il n'était plus là. Le roi du Maroc avait été remplacé. Enfin, tous ceux qui étaient ses contacts, tous ses échanges, ils avaient disparu. Alors, vous savez, la nouvelle génération, bon, elle dit, c'est les vieux matous, bon, on ne pourra pas s'ennuyer avec eux, quoi. Hein.
1995, Alexandre de Maranche, c'est un homme grand de taille, mais est-ce que c'est un grand homme ?
Alors pour moi, oui, parce que j'étais biographe, j'ai vécu en quelque sorte avec lui 3 années durant. Donc, parce qu'il avait des aspects quand même très, très attachants, pour l'avoir vu dans le fonctionnement interne du service, sa manière de traiter les gens, de traiter les grandes questions des services. On peut dire quand même qu'il avait beaucoup de doigté, d'audace, de courage, parce qu'il a pris sur lui nombre d'opérations très, très... sulfureuse, que beaucoup de ses successeurs n'auraient jamais assumé.
Quoi, par exemple ?
Ce qu'on appelle les opérations homo, donc des opérations d'élimination. Il les a toutes endossées et il disait, j'assume, le responsable, ça sera moi.
Vos recommandations ne sont pas suivies lorsque vous avez donné des informations aux princes qui nous gouvernent et qui n'en tiennent pas compte, vous êtes quand même très amer.
Quand je rentre chez moi le soir, oui. Mais pas dans la journée.
Par exemple,
il faut une grande discipline, vous savez, là-dedans.
Vous dites, Roménie vient s'installer en France. Oui. Vous dites aux dirigeants de ce pays, non, surtout pas, ne l'accueillez pas. Ils n'en tiennent pas compte. Hein. Vous faites dire au Vatican qu'il se prépare un attentat contre le pape. Le Vatican n'en tient pas compte. Vous dites, l'affaire des avions renifleurs. Vous dites, tout ça, ça sent mauvais. Et vous le dites même à la compagnie à Elf, à Aquitaine. Personne n'en tient compte. C'est quand même terrifiant. À quoi ça sert, alors, les renseignements ?
Alexandre de Maranche a romancé sa vie, donc dans Le Secret des Princes, mais vous, Jean-Christophe Notin, en 2018, vous publiez Le Maître du Secret et vous accédez à ces archives qu'on pensait inaccessibles ou qui n'existaient pas. Racontez-moi comment ça s'est passé et sur quoi vous mettez la main.
Alors, moi, quand je commence à écrire cette biographie de Maranche, tout le monde me dit ces archives n'existent pas, y compris au service. En rencontrant les gens, etc., je me dis quand même... Je pense qu'il y a quelque chose. Je vais pour rendre ma biographie, que je n'ai toujours pas trouvé ces archives. Jusqu'au jour où, bon, à force d'insistance, j'arrive à accéder dans une certaine maison, appartenant au Maranche, on va dire, et que là, la personne en question me sorte un carnet Hermès sur lequel Maranche prenait des notes, c'était l'année 41 ou 42, et c'est vrai, je me dis, c'est pas possible, il n'a pas pu ne prendre des notes que dans cette année-là, il y a forcément les autres carnets. Et c'est là, en tirant la pelote, que j'ai découvert cette fameuse salle en sous-sol, une salle blindée, dans une très très vieille maison, donc ça avait, avec des caisses pas blindées, mais scellées encore, tout à fait scellées, fermées. Et donc on a fait exploser à la tenaille électrique. Et c'est là où je suis tombé donc sur les 11 ans d'archives, Maranche, de notes diverses et variées, racontant toute sa période du SDEC, mais aussi tout avant et tout après. C'est-à-dire que c'est vraiment un trésor pour un biographe. Ça ne m'arrivera jamais plus. Pour moi, c'est le Graal du biographe. D'écrire déjà une biographie d'un dirigeant d'un service secret, tomber sur une telle matière, où vraiment j'ai pu rentrer dans l'intimité au jour près, sur 70 ans de vie, ça n'arrivera certainement jamais plus. Et donc, c'est pour ça que je ne peux que garder qu'une grande affection pour ce grand personnage.
J'ai été beaucoup plus étonné par le gros scoop du livre, c'est-à-dire que Maranche avait conservé ses archives privées toute la période de sa vie, et de sa vie active, entre 1930 et sa mort. Il avait conservé toutes ses archives privées dans l'une de ses propriétés. Heureusement, Notin a eu une attitude... très attentive à la préservation du secret en utilisant ses notes personnelles de Maranche, mais c'est un truc énorme, c'est une atteinte à la sécurité tout à fait considérable, c'est-à-dire il n'aurait pas dû conserver ses notes par-devers lui, il aurait dû les remettre, comme font les gens sérieux, il aurait dû les remettre aux archives du service ou aux archives de la défense, auquel cas ce sont pas les historiens ou les journalistes contemporains qui auraient pu y avoir accès, mais ceux qui travailleront sur ces affaires dans quelques décennies auraient pu y avoir accès. Là, pour l'instant, je reste assez étonné que Maranche ait procédé de la sorte, lui qui est si à cheval sur la préservation du secret quand il s'agit de ses subordonnés.
Alors, Maranche écrit très peu. Ses carnets Hermès, c'est plutôt de la patte de mouche, des abréviations, et il note à peu près tout. Des notes qu'il attribue à ses conquêtes féminines, à ses rencontres avec les grands dirigeants de la CIA, des services marocains. Donc il y a tout, parce qu'il y a ses carnets, il y a les rapports, il y a vraiment, je dis, si caisse SNCF pour figurer les grosses caisses métalliques. Mais ça, en plus, c'était une cave voûtée, remplie de papiers personnels de la famille américaine. Donc il y a toute la vie aristocratique entre Paris et les Rotoirs, qui était sa demeure en Normandie. Sa vie à Grasse, parce qu'il a terminé sa vie à Grasse, tous les gens qu'il a rencontrés, des albums photos, tout ça a commencé à manger par les souris, il y avait des araignées énormes, je me souviens, parce que c'était vraiment la cave où personne n'avait accédé depuis des années.
Comment vous a accueilli la famille de Maranche pour vous laisser accéder à ce trésor?
Alors, c'est une des fatalités de la famille Maranche, ils sont, j'allais dire, fils unique de père en fils. Donc, à vrai dire, il n'y avait plus de famille Maranche quand je commençais vraiment de famille proche. J'ai rencontré des cousins éloignés. Mais de famille proche, il n'y en avait plus. Hélas, il avait eu un fils unique qui est mort à 15 ans, en 71, d'un accident de mobylette au pied de Grasse. Sa femme était morte quelques années auparavant. Mais d'ailleurs, dans la maison dans laquelle j'ai trouvé les archives, il y avait encore la dernière tasse de café de la veuve. Donc ce n'est pas seulement la famille qu'il a fallu convaincre. Ce sont des gens qui ont géré un peu les affaires de Maranche. Maranche avait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc beaucoup d'avocats, des fondations, en veux-tu, en voilà, qui géraient un peu tout ça à leur façon. Donc il a fallu s'introduire dans ce milieu, essayer de convaincre. Mais eux-mêmes, à vrai dire, ne savaient pas qu'ils possédaient des archives.
Jean-Christophe Notin, où sont ces archives aujourd'hui?
C'est une bonne question, je ne sais pas.
Elles ne sont pas versées au fonds historique de l'armée? Elles n'ont pas une valeur symbolique et historique telle qu'elles doivent être conservées, répertoriées, numérisées?
Je l'espère. Moi, j'ai mené mon enquête, j'ai publié le livre. Après, c'est aux personnes en charge de ces différents services à s'en occuper. Moi, je ne fais pas un travail d'archiviste. Je suis essayiste, j'essaie de faire mon petit bonhomme de chemin. Ça m'a demandé beaucoup de labeur. Après, je transmets en quelque sorte le témoin.
Mais le témoin, il est transmis. Il y a des gens qui peuvent s'en occuper aujourd'hui, vous ne savez pas?
Honnêtement, je ne sais pas.
Un secret, un mystère de plus.
À Maranche, aujourd'hui, 21e siècle, 2025, n'est plus imaginable. Mais c'était l'homme qui a traversé la Ve République et qui en est sorti, en fait, à l'avènement de François Mitterrand au début des années 80.
Le renseignement correspond à plusieurs cadrans d'un avion. Dans le cockpit, le décideur, c'est le pilote, le chef de l'État. Il ne peut se passer de ses précieuses indications. S'il a de mauvais services, tenus par des amateurs, des imbéciles ou des incompétents, voire pire, cela rejaillira sur lui. Le monde est ainsi fait qu'ordinairement, le président vole dans des conditions difficiles. Souvent, il fait du pilotage sans visibilité. S'il n'a pas, à ce moment-là, des instruments genre altimètre, radar, pour savoir ce qu'il attend, on court à la catastrophe. À aucun moment de l'histoire, aucun pays digne de ce nom ne s'est passé de service du renseignement. Comme disait Sun Tzu, le renseignement est le prélude à la victoire.
Alexandre de Maranche, conte et légende. Un personnage romanesque, avec les journalistes Jean-Christophe Notin, Christine Crainte et Jean Guinel, et aussi Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la DGSE. Bibliographie complète sur le site de l'émission. Extrait de l'émission Apostrophe de septembre 1986. Texte dit par Olivier Claverie. Une histoire particulière. Coordination Emmanuel Laurentin, chargé de programme Sandrine Chaperon, mixage Éric Villenfin, réalisation Benjamin Hu, un documentaire de Michel Pomarède.